Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Une plainte pour faire la lumière sur d'éventuelles défaillances de l'État dans l'assassinat de Samuel Paty. Elle vise l'administration accusée de ne pas avoir protégé le professeur. À 4 jours du premier tour, le parquet ouvre aussi une enquête financière contre le cabinet McKinsey accusé de ne pas avoir payé d'impôts sur les sociétés. Écho de campagne et reportage dans l'Oise où l'abstention avait été forte il y a 5 ans. Ce sera encore l'une des clés de ce scrutin. L'actualité, c'est aussi l'Ukraine. Kiev qui appelle la population à quitter le sud-est du pays, désormais cible prioritaire du Kremlin. L'usine Buitoni de Caudry dans le nord, contrainte d'arrêter la production de pizza après les contaminations de plusieurs enfants. Et puis le design réfléchit au monde d'après, vivre autrement après la crise sanitaire, en pleine urgence climatique. C'est la Biennale internationale du design en ce moment à Saint-Etienne. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, on va voir comment les baristas, comment les patrons de boîtes se forment depuis plusieurs semaines à repérer les victimes de GHB, à repérer les comportements, les agresseurs. C'est une vraie campagne qui a été lancée sur laquelle on fait le point. La drogue, du viol dans les verres, ces affaires sont réellement prises au sérieux. Les cas augmentent, c'est une sorte de MeToo la nuit qui a ouvert les yeux de beaucoup et peut-être aussi les vôtres au 01 45 24 7000.
France Inter.
Près d'un an et demi après l'assassinat de Samuel Paty, une partie de sa famille a donc décidé de porter plainte. Une plainte contre X, visant en réalité 2 ministères, l'Intérieur et l'Éducation nationale, accusés de ne pas avoir protégé le professeur. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
La plainte que vous avez pu consulter rappelle la chronologie du drame, qui débute lorsque l'enseignant montre à ses élèves des caricatures de Mahomet en classe en octobre 2020.
Oui, dans cette plainte déposée pour non-empêchement de crime et non-assistance sa personne en péril, les proches de l'enseignant détaillent ce qu'ils considèrent comme une série d'alertes, des menaces ininterrompues jusqu'à l'attaque, y compris sur le répondeur du collège, et ce, alors que nous sommes en plein procès de l'attentat contre Charlie Hebdo et que des messages terroristes visent à nouveau la France, à tel point que la principale de l'établissement conseille à Samuel Paty de ne pas se déplacer seul. Mais pour les plaignants, le niveau hiérarchique supérieur, côté rectorat, n'a pas pris les mesures qui s'imposaient selon eux. Leur plainte dénonce aussi des défaillances de la part des services de renseignement et du ministère de l'Intérieur plus largement, qui aurait dû, selon ses proches de Samuel Paty, placer l'enseignant sous protection policière.
Et pourquoi avoir attendu près de 18 mois pour porter plainte ?
Eh bien parce que la démarche a pris du temps, explique Virginie Leroy, avocate de la famille de Samuel Paty, une famille qui se défend de toute récupération politique alors que nous sommes en pleine campagne pour la présidentielle et que les questions de sécurité sont sensibles. Virginie Leroy.
Il y a eu un moment de sidération, il y a eu un moment de deuil, de douleur, et puis après est venu le temps de l'analyse. Cette plainte, c'est pas une démarche qui est faite à la légère. C'est quelque chose qui est lourd, qui engage la famille, qui est douloureux à faire. Il ne faut rien y voir de politique. La récupération, malheureusement, la famille de Samuel Paty en a déjà souffert. Hein. Ça, nous n'en sommes pas maîtres, malheureusement. La plainte, c'est un acte juridique qui doit être réglé de manière judiciaire par des magistrats, et elle n'a pas à être politique.
Le parquet de Paris auprès duquel cette plainte a été déposée dit être en train d'étudier les éventuelles suites à lui donner.
Explication signée Ariane Grissel. Autre action en justice aujourd'hui, celle de la famille d'Ivan Colonna, action contre l'État après l'agression mortelle du militant indépendantiste. Ces dépôts de plainte risquent-ils de venir percuter la campagne à 4 jours du premier tour ? Les échos de campagne du soir sont avec vous. Bonsoir Anne Souhaitemont.
Bonsoir Hélène.
Il y a aussi cette enquête ouverte contre McKinsey, l'un de ses cabinets de conseil sollicité cité par la machine d'État et accusé de ne pas avoir payé d'impôts sur les sociétés depuis 10 ans. Plusieurs candidats à la présidentielle ont réagi cet après-midi.
Oui, enfin, cri du cœur sur Twitter de Yannick Jadot pour l'écologiste. La République exemplaire promise par Emmanuel Macron est bien loin. L'eurodéputé dénonçait il y a quelques jours l'organisation dans ce quinquennat de la collusion avec les cabinets de conseil. C'est comme ça qu'on avait mis l'hôpital à genoux. Aux antipodes, la candidate Hélène de Lutte ouvrière, fidèle à sa rhétorique travailleuse, Nathalie Arthaud, s'insurgèle sur France Info que ceux qui seront en mesure de faire toute la transparence seront les travailleurs eux-mêmes et non pas les parquets nationaux. Nathalie Arthaud d'ajouter, les grandes entreprises qui ont leurs entrées à l'Élysée doivent être expropriées.
Une fin de campagne qui se déroule toujours à l'aune de la guerre en Ukraine.
Et oui, alors que l'Occident planche sur de nouvelles sanctions contre Moscou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, Philippe Poutou, met en garde sur CNews. Attention aux conséquences de nouvelles sanctions, même si elles sont nécessaires.
Sûrement, mais après, il faut faire gaffe aussi à ce que ce ne soient pas les populations qui trinquent, parce que derrière Poutine, il y a un peuple. Et on sait qu'il y a une partie du peuple, en tout cas, qui s'oppose à la guerre de Poutine, qui est même arrêtée dès qu'il manifeste contre. Bon, voilà, comment faire pour arriver à la fois à fragiliser Poutine et le pouvoir des oligarques, et en même temps ne pas s'en prendre aux populations. On sait que les embargos en Irak, l'embargo, c'est la population irakienne qui avait trinqué. Donc voilà, comment faire ces choses-là? Donc c'est le problème qui nous est posé à nous. En tout cas, on pense qu'il faut que les populations, à un moment donné, puissent se battre elles-mêmes.
En arrière-fond, toujours cette question, la dépendance énergétique à la Russie. Sur CNews, Jean Lassalle voudrait lui qu'on mise dans le quinquennat à venir sur l'énergie solaire.
Il faut mobiliser tous nos chercheurs avec un objectif et un seul, trouver la source d'énergie renouvelable dans les 10 ou 15 ans. Pour moi, c'est le solaire. Il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas plus ancien et il n'y a pas plus renouvelable. Il faut, et ce sera une de mes premières mesures en tant que président, c'est de faire le point très exactement sur l'avancement de la recherche. Je crois que sur le solaire, nous sommes beaucoup plus avancés que nous ne le disons, parce qu'il fallait protéger le pétrole et le nucléaire.
Le candidat Jean Lassalle, écho de campagne tous les soirs dans ce journal avec le service politique. Et dans cette dernière ligne droite, il y a ce que dessinent les sondages, un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen et toutes les incertitudes d'une décision qui se prend finalement le jour J dans l'isoloir. Une partie des électeurs français hésite sur le bulletin qu'ils glisseront dans l'urne, voire sur leur intention de voter tout court. L'abstention que les sondeurs imaginent déjà forte, peut-être plus qu'en 2002, est une des clés de ce scrutin. À Goussainville, dans le Val d'Oise, elle avait déjà dépassé les 30% il y a 5 ans. Pierre Frasiac y est retourné.
Derrière son stand, sous le marché couvert, Yanis, 21 ans, vide les poissons. Il ne s'intéresse pas à la campagne présidentielle et ne voit pas l'intérêt d'aller voter.
Voter, je ne sais même pas pour qui voter. Donc, à vrai dire, dans ma tête, c'est plutôt qu'un vote, ça, pour moi, ça ne changera rien, quoi. Voilà, je me sens pas concerné en fait.
À 72 ans, ce retraité va faire son marché. Il se plaint de sa petite pension et pour la première fois, il boudera les urnes ce dimanche.
45 années de travail, on a une retraite de la misère. Les gens qui sont bien, ils n'arrivent jamais à monter au vote.
Ça vous dérange d'aller voter pour un petit candidat? Vous voulez pas voter pour quelqu'un
non,
qui fait deux?
C'est fini, je ne vote pas du tout. Dimanche, quand intelligent ils votent, moi j'ai fait un bon café, je chante. Parce que je sais, ils sont déplacés pour rien.
Sentiment que son vote ne pèse pas. Eugène aussi a renoncé.
Je les laisse décider. Si réellement ils prennent notre avis, bah tant mieux. Mais je pense pas qu'ils prennent réellement notre avis. En fait, on a même plus nos propres choix. C'est par dépit qu'on vote. Donc je trouve pas ça nécessaire.
Je ne crois plus à rien. Il y a que des promesses après.
Rien dans la campagne de cette année n'a convaincu Esther de retourner voter après 30 ans d'abstention.
Ça va de pire en pire, quoi. J'ai pas envie d'aller voter, je ne sais pas qui voter, je ne sais pas.
Et ce qui est frappant sur ce marché, c'est que même ceux qui iront voter disent y aller avec peu de conviction.
Vote de conviction ou vote stratège, voilà une autre question. Et les programmes? Alors, 21 800 000 Français ont reçu les professions de foi des candidats. Après les dysfonctionnements majeurs de distribution aux dernières élections départementales et régionales, c'est la Poste qui a repris le dossier. Et on n'est encore qu'à la moitié. Plus d'un million de procurations déposées ce soir, 250 000 rien qu'aujourd'hui, vous avez, je le rappelle, jusqu'à samedi.
Et à 19h08, on l'évoquait ici il y a un instant, la guerre en Ukraine, elle pourrait durer des mois, voire des années.
C'est le secrétaire général de l'OTAN qui le dit aujourd'hui, alors que les Russes concentrent désormais leurs forces sur le sud-est, la région du Donbass. Leur cible numéro un, d'ailleurs, les autorités ukrainiennes appellent la population à évacuer aussi vite que possible. Benjamin Thuot et Thibault Lefebvre, vous vous trouvez plus au nord. Bonsoir à tous. Tous les deux.
Bonsoir Hélène.
Dans cette région autour de Kiev que les Russes ont quittée, vous êtes allé dans le village de Gogoliv qui cherche ses disparus et qui enterre ses morts.
Oui, on a suivi une procession mortuaire, une centaine d'habitants, des hommes, quelques femmes, beaucoup de personnes âgées. Le village de Gogoliv enterrait tout à l'heure Oleg. Oleg a 32 ans, il est mécanicien, c'est un civil et il est mort hier matin après avoir essayé de redémarrer une voiture piégée. Peau blanche, barbe noire finement taillée, un bandeau sur le front, une prière inscrite dessus. Oleg a reçu l'ordre de réparer les véhicules abandonnés par les Russes, puis de les mettre à la disposition de la défense territoriale. Ça lui a coûté la vie. Le cercueil est ouvert à l'arrière d'une camionnette. La camionnette roule au pas. Derrière, la famille, l'épouse, enceinte, le père effondré, le frère en tenue militaire. Et puis les cousins, les amis, les babouchkas, les mamies qui chantent et prient l'enfant du village. Ce matin, tout Gogoliv était au cimetière. En tout cas, tous les habitants qui ont pu ou qui ont dû rester. pas d'enfants, pas de jeunes femmes, tous partis se réfugier à l'Ouest. Ici, la guerre est une affaire d'hommes et une affaire d'anciens. Et même si les destructions sont moins importantes qu'au Nord-Ouest, que la guerre d'artillerie a été moins dure qu'à Irpin, qu'à Boutcha ou qu'à Borodienka, eh bien l'effroi a laissé la place à la colère. Et les habitants de Gogoliv se disent prêts à retourner au combat.
Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot, envoyés spéciaux de France Inter en Ukraine. Merci à vous deux. Et malgré les images satellites qui démentent la version russe, Vladimir Poutine réfute toujours toute exaction à Boutcha. Il a parlé aujourd'hui de provocations grossières et cyniques dans un entretien au téléphone avec Viktor Orban, le premier ministre hongrois, sorti renforcé des législatives du week-end, immédiatement félicité d'ailleurs par le président russe, qui semble aujourd'hui vouloir jouer un rôle diplomatique. Florence de la Bruyère est à Budapest.
Viktor Orban a invité Vladimir Poutine à Budapest pour y discuter d'un cessez-le-feu avec le président ukrainien. Le président russe a dit oui, mais avec des conditions, a annoncé Orban. « Je ne peux pas négocier pour que ces conditions soient remplies, ce sera aux deux présidents de le faire », a ajouté le dirigeant hongrois. Viktor Orban joue les médiateurs, mais il a refusé de condamner les atrocités commises à Boutcha en Ukraine. Le premier ministre hongrois se démarque de la vague de condamnations occidentales et il continue à cultiver sa relation de proximité avec Vladimir Poutine. La Hongrie a signé de nombreux contrats avec la Russie et c'est à Budapest que s'est installée la mystérieuse banque russe d'investissement, un nid d'espions selon les services de renseignement américains. Autre exemple du rapprochement entre la Hongrie et la Russie, un média d'investigation hongrois vient de révéler, documents à l'appui, que les services secrets russes avaient infiltré le ministère hongrois des Affaires étrangères. Ils auraient eu accès à des documents confidentiels de l'OTAN. Selon ce journal, le gouvernement Orban était au courant depuis longtemps, mais il n'a pas protesté auprès de Moscou. Budapest, Florence Labruyère, France Inter.
L'Union européenne toujours en train de discuter d'un nouveau train de sanctions à l'encontre de la Russie. Elles se font attendre d'ailleurs. Est aussi bien embarrassée par la victoire de Viktor Orban sur la question des valeurs de l'état de droit. La Commission européenne lance d'ailleurs aujourd'hui la procédure qui pourrait priver Budapest de fonds européens en raison d'accusations de corruption. Et puis les mercenaires russes du groupe Wagner qui seraient associés à la junte désormais au pouvoir au Mali et à ses soldats que l'on accuse aujourd'hui d'avoir exécuté 300 000 civils qu'ils soupçonnaient d'être djihadistes, rapport de l'ONG Human Rights Watch. L'actualité, c'est aussi ce verdict qui, au Burkina Faso, j'évoquais un nombre de victimes à l'instant, il s'agit évidemment de 300 victimes, 300 civils qui auraient été exécutés par les soldats de Wagner. Je me suis trompée dans le chiffre qu'ils soupçonnaient d'être djihadistes. L'actualité, je le disais, c'est aussi ce verdict qui, au Burkina Faso, restera dans l'histoire. L'ex-président Blaise Compaoré condamné par contumace à la prison à vie avec deux autres accusés, reconnus coupables d'avoir commandité l'assassinat de son prédécesseur, le révolutionnaire Thomas Sankara, pour s'installer au pouvoir à la fin des années 80. C'est l'aboutissement d'une procédure judiciaire de plus de 20 ans. Fanny Noirot est à Ouagadougou.
Mariam Sankara est soulagée à la sortie du tribunal. Au-delà du verdict, ce procès restaure la mémoire de son mari, presque effacé sous le pouvoir de Blaise Compaoré.
Je pense que les Burkinabés et l'opinion publique sait maintenant qui est le président Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il voulait? Ce que ceux qui l'ont assassiné aussi voulaient. On l'avait traité de tout dans des discours et tout ça. De ce côté, en tout cas, je suis soulagée parce qu'on sait qui il est.
Plus loin, Maître Guy Hervé Cam, avocat des familles des victimes, se dit fier de voir l'aboutissement de plus de 20 années de procédure judiciaire.
Le plus important pour nous, c'était déjà de savoir que les événements du 15 octobre 87 ont été prémédité. À partir d'aujourd'hui, les familles des victimes pourront donc commencer en fait leur deuil.
Sur les trois condamnés à perpétuité, seul Gilbert Diendéré était présent. Et pour l'avocat maître Mathieu Sommet, son client paye pour l'absence des deux autres.
Il paye un peu pour ça parce que personne n'a pu démontrer son implication réelle dans le dossier. Nous allons laisser le soin aux accusés de décider de la conduite à tenir.
Les accusés bénéficient de deux semaines pour faire appel. Ouagadougou, Fanny Noirot, France Inter.
Et à 19h14, Hélène, la douleur d'une mère aujourd'hui devant les assises du Doubs.
C'est le procès de Nicolas Zepeda, accusé d'avoir assassiné une jeune étudiante japonaise, Narumi Kurosaki, disparue en décembre 2016 à Besançon. Son corps n'a jamais été retrouvé. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Hélène.
Sa mère, venue spécialement du Japon, a raconté sa fille aujourd'hui pendant plus de 3h30.
Et pendant tout ce temps, Taiko Kurosaki alternait entre larmes et colère. Des larmes quand cette frêle maman évoque Narumi, en colère quand elle se redresse à la barre des témoins pour parler de Zepeda, de Monsieur Zepeda, dit-elle pour le distancier, et du mal qu'il faisait déjà Narumi quand ils étaient en couple au Japon. Un large mouchoir blanc à la main, une longue mèche lui cachant une partie du visage, Taiko Kurosaki dit qu'elle est psychiquement détruite depuis 5 ans. Elle raconte la pression que Monsieur Zepeda exerçait sur sa fille. Il était possessif et jaloux. Elle le quittait, il la harcelait. Elle avait pitié et ça recommençait. Puis Narumi est partie étudier en France. Zepeda a continué sa pression à distance en lui piratant ses messageries pour la surveiller. Exécrable menteur, crie Taeko Kurosaki. Il ne dira jamais la vérité. Puis, en larmes, je voudrais embrasser ma fille, mais je n'ai plus que sa photo. En colère à nouveau, elle hurle dans le micro. Il ne faut jamais laisser ce monstre en liberté. Et dans un ultime sanglot face au juré, n'oubliez pas que si Narumi était encore vivante, elle aurait pu contribuer à construire un monde meilleur. Taeko Kurosaki a fini, le public l'applaudit spontanément, longuement.
Jean-Philippe Deniaux en direct de Besançon. Verdict attendu le 12 avril. Cette grosse frayeur à Roissy, c'était hier. Un Boeing sur le point d'atterrir remet les gaz en urgence. Un enregistrement révèle la conversation des pilotes. À ce moment-là, l'avion fait n'importe quoi, disent-ils. Une enquête de sécurité ouverte pour incident grave. Après les cas graves de contamination à l'Escherichia coli de plusieurs enfants, le préfet du Nord a donc décidé aujourd'hui l'arrêt de la production de pizza dans l'usine Buitoni de Caudry, où travaillent 200 personnes, et où vous vous êtes rendue, Cécile Bidot.
Tout au long de l'après-midi, les rares salariés présents sur le site sont sortis en voiture sans faire de commentaires. Le parking devant le bâtiment blanc rehaussé de l'enseigne vert et rouge Buitoni est bien vide. Il faut dire que les lignes de production ont été mises à l'arrêt il y a 15 jours. On n'a pas attendu l'arrêté du préfet pour stopper la fabrication, lance un salarié agacé. Sans couper son moteur, il ajoute « Nous sommes tous mobilisés pour trouver l'origine de cette bactérie ». Dans un communiqué, la direction assure travailler sur un plan d'action pour prendre les mesures appropriées. Elle n'a pas le choix car le préfet du Nord interdit toute reprise tant que le problème n'est pas réglé. Après l'inspection menée la semaine dernière sur 2 jours, le rapport des autorités sanitaires est accablant. Manque d'entretien, de nettoyage, présence de rongeurs dans l'atelier boulangerie. Autant d'éléments qui font peser un risque sur la santé des consommateurs, écrit le préfet.
Cécile Bidot, France Bleu Nord. Encore un rappel, cette fois ce sont des fromages de marque Grain d'Orge du groupe Lactalis, rappelez, car il pourrait contenir des listeria. L'épidémie de Covid, alors qu'on semble approcher du pic de contamination, l'Agence européenne du médicament estime qu'il est trop tôt pour recommander une deuxième dose de rappel en population générale. Rien ne prouve non plus que cette quatrième dose ne soit nécessaire pour les 60-79 ans ayant un système immunitaire normal. Elle peut être utile, en revanche, pour les plus de 80 ans. Direction Saint-Étienne, après présent, où la Biennale internationale du design vient de s'ouvrir, une 12e édition qui voit les choses en grand, 7 expositions pendant 4 mois, et qui interroge le monde d'après. Réflexion autour de l'habitat, de l'automobile ou encore de notre rapport au corps pour réinventer notre mode de vie, Héloïse Roger.
Oui, il y a notamment l'exposition « Maison soustraire » qui questionne notre rapport aux objets et nos modes de vie. Pendant près de 3 mois, la designer Mathilde Pellet a vécu dans un appartement où elle a retiré, tenez-vous bien, 2/3 de la matière de tous les objets qui l'entouraient. Elle expose à la Biennale les bouts d'objets qu'elle a conservés.
Je prends l'exemple du lave-linge. Je savais très bien en fait qu'avec 1/3, ça allait être difficile de conserver cette fonction. Donc ça a mis en place d'autres stratégies dans le quotidien, c'est-à-dire que je lavais mon linge à la main. Dans cet objet lave-linge, j'ai récupéré des éléments. On voit dans cette vitrine, il y a le hublot. Et ce hublot, c'est devenu la gamelle d'eau de mon chien.
Alors certes, c'est un peu conceptuel, mais cette idée de récupération, elle fait son chemin. Plusieurs entreprises françaises s'y mettent. On peut en voir certaines à l'exposition Dépliage. Il y a par exemple la maison de couture Mourcelle qui réutilise le lycra des combinaisons de cyclisme. Florian Trollet est le commissaire de l'exposition.
On ne peut pas recycler aujourd'hui le lycra. Tous les fabricants de matières s'y attellent. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait de tous ces lycras qui sont promis à la destruction? Pourquoi pas faire des corsets, des costumes de scène pour la chanteuse Angèle.
C'est un design qui est consciencieux, qui surtout ne considère pas tout ce qui est abîmé ou usé comme un déchet, mais plutôt comme une ressource.
Finalement, le design, c'est aussi ça, permettre de se réinventer avec ce qu'on possède déjà, modifier ses comportements et donc bifurquer.
Voilà le thème de cette année, bifurcation qui incite au changement. C'était un reportage de France Bleu Saint-Étienne-Loire, Héloïse Roger.
Bah très bien, merci beaucoup Hélène Filly, on se retrouve demain. Pour nous, ça continue avec le téléphone sonne, on va parler de GHB ce soir, la drogue du viol et toutes ces campagnes autour des boîtes et autour des bars, prouvant que le phénomène est pris très au sérieux. Un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Et Sébastien Léa, c'est un temps agité pour demain.
Oui, on se dirige même vers une séquence particulièrement pluvieuse et venteuse avec le passage de deux perturbations très actives entre demain et vendredi. La première perturbation balayera une vaste moitié nord demain, de la Bretagne au nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Alpes du Nord, à la Bourgogne-Franche-Comté, au Hauts-de-France et au Grand Est. Il faut s'attendre par moments à des pluies marquées, accompagnées de fortes rafales de vent. Entre le Poitou-Charentes et le Limousin, les pluies seront temporairement soutenues toute la journée. Les rafales de vent atteindront 60 à 90 km par heure demain, mais elles vont encore monter d'un cran vendredi avec la nouvelle perturbation. Des rafales à plus de 100-110 km par heure souffleront sur le nord-ouest vendredi. Cette seconde perturbation arrosera surtout les régions au nord de la Loire jusqu'au Grand Est vendredi, et puis on retrouvera à nouveau un peu de neige jusqu'en plaine entre la Normandie et la Champagne-Ardenne.
Eh bien, dites-moi, des éclaircies sur le sud quand même ?
Oui, la matinée de demain sera même plutôt bien ensoleillée entre les Landes, les Pyrénées, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Haute-Corse. Le vent fort d'ouest apportera quand même un ciel plus chargé sur la Corse du Sud. Les nuages et le vent persisteront d'ailleurs l'après-midi. Les éclaircies resteront belles entre la Côte d'Azur, le Languedoc et les Pyrénées-Orientales. En revanche, les nuages de la perturbation déborderont dans les plaines du sud-ouest avant l'arrivée des pluies en fin de journée. A l'inverse, les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Normandie et la Bretagne retrouveront un ciel plus variable demain après-midi avec des éclaircies. Les températures seront en légère hausse et au-dessus des normales. 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 12 à 21 degrés plus au sud avec des pointes quand même jusqu'à 23 degrés.